Alors, les plantes adaptogènes, donc on va parler un petit peu d'histoire à nouveau, c'est un concept qui a été créé en Russie dans les années 40, parce qu'en fait, les chercheurs essayaient de trouver des plantes, des solutions pour soutenir l'endurance et les performances physiques dans des conditions vraiment très hostiles, très extrêmes. Donc, le concept de plantes adaptogènes, il est né à ce moment-là. Par contre, les plantes adaptogènes, on les utilisait déjà depuis très longtemps, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise.
Bienvenue chez Healthwise, le podcast présenté par Sonde Naturelle qui nourrit votre santé, votre corps et votre esprit. Je m'appelle Noémie Jobard et ensemble, on explore tous les moyens d'être ou de rester en bonne santé. Médecine, sport, nutrition ou santé mentale, autant de sujets qu'on aborde ici avec les conseils avisés d'experts au service de votre bien-être. Un épisode, une thématique. C'est parti!
Depuis des millénaires, l'être humain s'appuie sur les plantes pour se soigner. De l'Inde ancienne à la médecine traditionnelle chinoise jusqu'aux pharmacopées européennes, la phytothérapie a traversé les âges. Et aujourd'hui, la science moderne nous permet d'aller plus loin en analysant les molécules actives, en essayant de comprendre leurs mécanismes, mais aussi de valider ou parfois questionner des usages hérités de la tradition. Dans cet épisode, on va se plonger au cœur d'une famille de plantes bien particulière, les plantes adaptogènes. Ces végétaux étonnants capables de pousser dans des conditions extrêmes pourraient aider notre organisme à mieux s'adapter au stress, à soutenir l'immunité et à retrouver de l'énergie. Mais alors, comment agissent-elles dans notre organisme? Comment les prendre? À quoi faire attention? Et surtout, quelles sont les plantes phares à connaître? Ashwagandha, ginseng, en passant par la rhodiola ou la schisandra, notre invité aujourd'hui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Et notre experte du jour, c'est Aurore Houdard. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Healthwise. Tu es infirmière de formation, titulaire d'un DU de phytothérapie et d'aromathérapie clinique. Tu es également formée à l'international en nutrition et en micronutrition. Tu es spécialisée en accompagnement de la femme, SOPK, endométriose, fertilité notamment. Et pour tes consultations, tu proposes une approche individuelle et ciblée. En fait, tu cherches toujours à agir sur le terrain pour rechercher les causes, c'est ça?
Mmh, exactement.
Alors, comme j'ai l'impression que tu touches un petit peu à tout, de par ton parcours, ma première question, c'était qu'est-ce que tu aimes faire le dimanche?
Bien, j'ai la chance de vivre en région montagneuse, à Chambéry. Donc, pour moi, le dimanche, c'est rando. Donc, voilà, quand la météo le permet, je prends mon sac à dos et je vais en montagne. C'est vraiment un besoin que j'ai, ce contact avec la nature. Mmh. Donc, dès que possible, je vais m'aérer l'esprit et recharger un petit peu les batteries.
Donc, on ne trouve pas à la maison le dimanche, quoi.
Pas vraiment, sauf quand il pleut.
Ouais. Quand on me dit phytothérapie, je pense tout de suite au livre qui utilise des illustrations de fleurs de montagne. En tout cas, moi, j'avais des atlas comme ça à la maison qui étaient vraiment très belles. Du coup, quand on me dit ce mot, je vois vraiment le grimoire ancien des plantes avec tous les noms latins, etc. En tout cas, des plantes colorées. Toi qui es experte, tu as sûrement une vision un peu plus précise de ce que c'est la phytothérapie aujourd'hui. Alors pour toi, c'est quoi ?
Alors la médecine aujourd'hui, elle découle vraiment d'un usage des plantes ancestrales. La phytothérapie, donc, c'est une branche qui vise à utiliser les plantes pour soigner. Pour moi, la phytothérapie, c'est vraiment une complémentarité. C'est quelque chose qu'on va utiliser en plus de la médecine courante. Je suis pas forcément très adepte de ces discours où on va séparer la médecine traditionnelle de la phytothérapie. Ce que je peux observer au quotidien dans ma pratique, c'est vraiment la complémentarité des pratiques et c'est là qu'on obtient vraiment les meilleurs résultats pour les patients. Après, je pense que c'est intéressant peut-être de parler un petit peu de l'histoire des plantes. Donc les premières traces que l'on trouve de la phytothérapie, ça va être dans les recherches archéologiques. On va voir déjà que les plantes, à l'époque, elles étaient non seulement consommées, mangées, mais elles sont également utilisées pour soigner. Ensuite, dans l'Antiquité, il va vraiment y avoir un premier virage pour la phytothérapie parce que des philosophes, mais aussi des médecins comme Hippocrate, comme Dioscoride, vont apporter beaucoup pour la phytothérapie. Dioscoride, notamment, recense un premier ouvrage. Dans cet ouvrage, il va recenser 500 plantes médicinales.
Ah oui, donc il en a vu beaucoup.
Ouais, vu beaucoup, étudié beaucoup. Hippocrate aussi va faire énormément d'études cliniques avec les plantes. On va avoir aussi Aristote qui va parler en premier du totem de la plante. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent à ce moment-là. Ensuite, il va y avoir la période un petit peu, on va dire, du Moyen-Âge, où en Europe, ça va être particulier parce que la connaissance et l'usage des plantes va vraiment être réservé aux moines et à une sphère, on va dire, plus religieuse. Dans le reste du monde, par contre, on voit la naissance des premières écoles de médecine et le développement des pharmacopées traditionnelles dans chaque grande civilisation. C'est aussi un temps un petit peu particulier, le Moyen-Âge, parce que on développe aussi le commerce. Donc on va avoir les premiers échanges de plantes, les premiers échanges de pratiques. Ça va encore plus s'ancrer après au moment des grandes découvertes où on va aller découvrir d'autres continents. On va forcément découvrir de nouvelles plantes, s'approprier de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques. Donc il va aussi y avoir un petit phénomène où finalement on va essayer de s'approprier ça, de gagner de l'argent avec ça. Donc ça va être pendant plusieurs siècles ensuite. Et puis après, on a un gros virage aussi au 19e siècle avec la naissance de la chimie moderne. Donc dans un premier temps, on va vraiment utiliser les plantes pour extraire, je dirais, les principes actifs. Donc par exemple, on a beaucoup de médicaments qu'on utilise couramment qui sont à la base issus de plantes. Donc par exemple, la morphine avec le pavot, la digitaline, la digitale, ou encore l'aspirine, tout simplement, à la base, c'était tiré du saule blanc. Et ensuite, on va se tourner vers une médecine un petit peu différente où on va utiliser davantage des molécules de synthèse. Donc jusqu'à très récemment, c'était un petit peu le règne de la molécule de synthèse. Et quand même, on observe depuis quelques années en Occident qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour la phytothérapie, qui se situe actuellement dans un carrefour un peu spécifique entre justement la tradition et la modernité. Donc, on connaît cet effet, ces propriétés traditionnelles des plantes, et donc aujourd'hui, la science, elle va permettre de valider ça avec des études cliniques.
Du coup, c'est grâce à la science, aujourd'hui, et aux études qui sont faites, si certaines plantes sont un peu plus populaires que d'autres.
Ouais, tout à fait, je pense qu'il y a de ça. Et puis, on commence aussi à avoir un certain recul. On a vraiment des plantes qui sont reconnues traditionnellement. Et voilà, on n'a même pas forcément besoin de la science, je dirais, pour
valider.
C'est ça.
Ok. Moi, du coup, je travaille dans les compléments alimentaires. Donc là, tous les extraits que tu viens de me dire, je vois un peu le principe. Je fais aussi extrêmement attention à ce qu'on dit à propos des bienfaits de certaines substances aux consommateurs et aux consommatrices. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aucune, mais vraiment aucune, allégation de santé autorisée par l'EFSA, qui est l'instance européenne de la sécurité des aliments, sur les plantes. Alors, je me suis demandé comment on sait à quel point, voilà, ce qu'on disait sur les études, la science moderne valide ou non les bienfaits de certaines plantes. C'est difficile, nous, en tant que consommateurs, de savoir est-ce que c'est vrai, cette tradition ? Est-ce que je peux m'y fier ou pas du tout ?
Ouais, c'est très compliqué de s'y retrouver. En fait, l'EFSA, elle est vraiment chargée de valider les allégations thérapeutiques, les allégations de santé. La loi, c'est qu'un complément alimentaire ne doit pas se prétendre guérir une maladie. Après, nous, en phytothérapie, on va faire appel à d'autres instances qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Donc, on a notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence européenne du médicament, qui a publié une monographie. On va avoir également l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, qui a également une liste de plantes, donc la pharmacopée française, mais aussi la pharmacopée européenne. Et elle pose un petit peu les bases aussi en termes de pureté de la matière première, pour ce qu'on importe en Europe. Et on a aussi la commission E du ministère de la Santé allemand, peut-être que ça te parle.
Oui.
En Allemagne, du coup, on a cette commission qui va avoir pour objectif de faire un petit peu avancer les choses pour la phytothérapie et qui va également beaucoup œuvrer pour nous. Donc on se fie plutôt à ces instances-là parce que c'est très compliqué de s'y retrouver. En France, par exemple, la phytothérapie, on retrouve des produits qui vont être considérés comme médicamenteux,
Donc, ça va être par exemple les préparations magistrales, les médicaments à base de plantes, mais aussi des produits non médicamenteux. Donc, ça va être les compléments alimentaires ou les dispositifs médicaux. Donc, c'est un petit peu complexe. C'est des questions de statut, de loi, pas forcément très digestes, on va dire, mais qui ont aussi leur importance. Et par exemple, pour une même plante, prenons l'exemple de la menthe poivrée, l'OMS et l'Agence du médicament vont reconnaître des bienfaits de l'huile essentielle de menthe poivrée, notamment dans le syndrome de l'intestin irritable, tandis que la commission E allemande va mettre en lumière les bienfaits de la plante, des feuilles, dans des troubles digestifs ou même des atteintes des voies biliaires.
Ok, donc il faut juste voir un petit peu si on a dit quelque chose quelque part et on se fie comme ça.
Je pense que ça peut être intéressant déjà de voir ce que proposent les instances officielles. Après, être phytothérapeute ou travailler dans le milieu de la phytothérapie, ça demande vraiment de suivre les études cliniques de très près. Mmh. Et donc, on va toujours favoriser les études qui sont les plus solides possibles, donc notamment les études randomisées en double aveugle. Mmh. Voilà, celles qui apportent le plus de crédit aussi. Mais voilà, ça demande de se former au quotidien, de lire, de se renseigner.
Du coup, je vais me laisser guider par toi aujourd'hui, tout au long de l'épisode, j'espère. Mais je voulais quand même te partager un peu mon expérience, même si c'était pas forcément exactement à propos d'une plante adaptogène, mais juste avec les plantes en général. J'avais de temps en temps les gencives enflammées et douloureuses, et il y a quelques années mon dentiste m'a dit de prendre des tisanes de camomille et de faire quelques gargarismes. Et donc je vais au supermarché, je vais m'acheter mes sachets de thé à la camomille et rien. Mais en fait, il y a rien qui se passe, alors du coup j'abandonne. Et puis plus tard, quand je suis arrivée chez Sunday, on avait la machine à café, mais aussi beaucoup de thé à disposition. Et donc, j'ai repris l'idée de reprendre de la camomille en tisane chez Sunday. Et comme ça revenait un petit peu, j'en ai pris à la maison. C'était du coup de la camomille bio des Alpes autrichiennes, voilà, que j'ai eu en cadeau. Et là, vraiment, soulagement. Depuis, j'ai toujours un stock à la maison au cas où. Même si j'aime bien en boire aussi le soir. Pareil, menthe poivrée, camomille, en tisane, etc. Pour les huiles essentielles aussi. Chez nous, dans notre boutique, on a même 10 sortes d'huiles essentielles de lavande et aucune n'a la même odeur, la même qualité, la même texture presque. Et donc, ma question c'est, est-ce que la qualité en fait, de l'importance dans les bienfaits qu'on veut avoir, l'origine aussi peut-être, et la forme, la ganélinique, si c'est une infusion, si c'est une teinture, si c'est sous d'autres formes, ça fait peut-être la différence dans ce qu'on a envie d'atteindre.
Totalement. Totalement. Ce que tu pointes du doigt, c'est très juste, c'est que quand on boit une tisane, on pratique déjà, d'une certaine manière, la phytothérapie. Mmh. Alors après, la phytothérapie, elle a vraiment mille et un visages. On va pouvoir utiliser, comme tu l'as dit, des huiles essentielles, des hydrolats, de la poudre de plantes. On va pouvoir aussi utiliser des extraits qui vont être beaucoup plus concentrés, des sirops, des macérats, des décoctions. C'est vraiment une science qui regroupe énormément de produits, de galéniques différentes. Et puis, selon ces galéniques, on va vraiment avoir des quantités de principes actifs qui varient du tout au tout, qui sont vraiment énormes. Par exemple, justement, une poudre de plante, on va vraiment avoir le totum dedans, c'est-à-dire l'ensemble des principes actifs. Donc ça, son utilité dans beaucoup, beaucoup de cas. Et puis, avec un extrait, en fait, on va avoir des formes beaucoup plus concentrées parce qu'on va cibler un principe actif précis que l'on va vraiment, je dirais, décupler via l'utilisation d'un solvant. Alors que finalement, ce sera pour une même plante. Entre une poudre, par exemple, de rhodiola et un extrait de rhodiola, ce sera pas du tout la même concentration. Donc, il y a ça d'une part. Et puis, on va également avoir des produits qui vont être très sous-dosés. Ça va être vraiment de la qualité, je dirais, d'une marque à l'autre. Parfois, les produits sont vraiment extrêmement sous-dosés. Et puis, l'autre grande problématique en phytothérapie, ça va vraiment être les contrefaçons, les malfaçons, qui sont une réalité dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc moi, ce que je peux recommander dans ce cadre-là, ça va être d'une part de consommer des plantes aussi local que possible, et puis surtout qu'il y ait des analyses réalisées par un laboratoire indépendant qui vérifie vraiment la composition de chaque produit.
Ok, pour éviter les malfaçons du coup.
Exactement.
Du coup maintenant on sait aussi que les plantes peuvent être puissantes, parce que parfois il y a même souvent des contre-indications. C'est quoi l'attitude à adopter si on veut utiliser une plante? C'est quoi les questions en fait à se poser avant l'utilisation?
Alors, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phytothérapie, contrairement à ce qu'on peut entendre assez souvent, c'est pas du tout une médecine douce. Chaque plante, chaque plante a vraiment une toxicité propre, des contre-indications strictes, des interactions aussi médicamenteuses, beaucoup. Donc il faut avoir ça, je dirais, en tête. Donc, les contre-indications les plus fréquentes, ça va bien évidemment être la femme enceinte, la femme allaitante, le jeune enfant, les maladies, je dirais, quand même du foie et des reins. Et puis, également, avoir un petit point de vigilance par rapport aux antécédents personnels et familiaux de cancers hormonodépendants, donc cancer du sein, de l'utérus, ce genre de choses. Donc ça, c'est les contre-indications majeures, je dirais les choses qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Par exemple, une femme enceinte qui va avoir une petite toux un peu hivernale, elle pourra pas utiliser d'huile essentielle. Elle pourra prendre des petites choses, mais vraiment... on utilisera des produits très peu concentrés, des galéniques vraiment, je dirais, des formes un peu plus légères. On fera attention également à la voie d'administration. On n'appliquera rien sur le ventre, par exemple. Donc, pour une petite toux, on va utiliser une tisane de thym ou alors un hydrolat de thym également. Mais ce sera toujours sur des durées très, très courtes. D'où l'importance pour moi de toujours prendre conseil auprès d'un praticien qui sera formé, donc que ce soit un phytothérapeute, un pharmacien, un naturopathe.
Ok, bah merci pour les conseils déjà avant qu'on se lance tête baissée. On parle pas mal de plantes adaptogènes en fait sur notre compte Instagram. On a fait plusieurs posts il y a pas très longtemps. On essaie toujours d'expliquer des manières compréhensibles d'expliquer ce que c'est une plante adaptogène. Mais j'avoue que je connais pas officiellement les critères pour dire telle ou telle plante est adaptogène ou non. Alors comment on définit si une plante est adaptogène ou pas?
Alors avant de parler peut-être des plantes adaptogènes et de définir vraiment ce concept, je pense que c'est aussi intéressant d'aborder des notions telles que déjà la notion de stress, mais aussi de burn-out, d'épuisement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre réaction au stress, elle est la même que quand nous étions des hommes préhistoriques fortement exposés à de grands dangers. Donc, typiquement, à l'époque, le stress, c'était de se retrouver face à une bête féroce qui voulait nous dévorer. Aujourd'hui, le stress, ça va être d'être coincé dans des embouteillages, ça va être d'être malheureusement exposé à un patron qui nous veut pas forcément toujours du bien.
Lui aussi est toxique.
Voilà, exactement. Sauf que notre corps, il sait pas vraiment faire la différence entre les deux. Donc, la réaction, je dirais, chimique, la réaction du corps, elle va être strictement la même. Sauf qu'à l'époque, donc, quand on était face à un danger, il y avait une mise en route de l'organisme. On allait soit combattre l'ours...
Soit courir,
exactement. Aujourd'hui, on peut pas sortir courir de notre voiture dans un embouteillage ou on peut pas frapper notre patron. Ça se fait pas vraiment. Donc, la problématique, c'est qu'on n'a pas vraiment appris à s'adapter, à moduler notre réaction à ce stress. Donc, quand on a un stress, donc, tout vient du cerveau, notamment de l'axe hypothalamus-hypophyse, en lien avec les surrénales. Donc, on va appeler l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, ces deux axes vont beaucoup communiquer ensemble. On va avoir une production hormonale, notamment de l'adrénaline, de la noradrénaline, et du cortisol. Donc, le cortisol, il est un petit peu montré du doigt. Pourtant, c'est vraiment nécessaire, en fait, d'avoir toute cette production-là. C'est ce qui a permis à notre espèce de survivre. Et c'est ce qui nous permet aussi de gérer les situations de stress, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement. Quand tout va bien, notre cortisol, il va être plutôt élevé le matin. Et ensuite, au cours de la journée, il va redescendre jusqu'à atteindre un niveau vraiment très bas la nuit pour permettre le repos. Donc, on a vu un petit peu ce qui se passait lors d'un stress aigu. La problématique, ça va être quand ce stress, il va perdurer, devenir un petit peu plus chronique. À ce moment-là, notre production de cortisol, elle va être un petit peu plus anarchique. Au bout d'un moment, le corps va produire énormément de cortisol de manière prolongée, de manière absolument inadéquate. Et il va en découler un épuisement aussi surrénalien. Si ce stress y persiste encore vraiment dans la durée, au bout d'un moment, notre corps, il est plus apte à produire du cortisol. Nos surrénales sont absolument épuisées et donc le cortisol s'effondre et c'est le burn-out. Donc ce stress, il a vraiment une influence sur beaucoup de choses. Il va influencer bien évidemment notre état émotionnel, mais aussi notre digestion, notre sommeil, notre système hormonal,
des réactions inflammatoires aussi dans l'organisme. Voilà, on en parlera un petit peu après. Voilà, c'est pas uniquement un état, je dirais, de fatigue anodin ou un stress simple.
Et du coup, avec les plantes adaptogènes, c'est quoi le lien ?
Alors, les plantes adaptogènes, donc on va parler un petit peu d'histoire à nouveau, c'est un concept qui a été créé en Russie dans les années 40, parce qu'en fait, les chercheurs essayaient de trouver des plantes, des solutions pour soutenir l'endurance et les performances physiques dans des conditions vraiment très hostiles, très extrêmes. Donc le concept de plantes adaptogènes, il est né à ce moment-là. Par contre, les plantes adaptogènes, on les utilisait déjà depuis très longtemps, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise.
C'est juste là où ça a été écrit en Europe. Enfin, qu'il y a eu du coup des traces sur cette famille de plantes.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment à ce moment-là que, du moins, ce terme d'adaptogène est né. Et donc, une plante adaptogène, elle va se définir par sa capacité à soutenir l'organisme, justement, qui va être exposé à un stress. Donc, souvent un stress prolongé, mais de différentes natures. Que ce soit un stress, je dirais, psychologique, un stress physique, mais aussi un stress, disons, plus infectieux. La plante adaptogène n'engendre pas de toxicité. Elle va, je dirais, ne pas déréguler les fonctions qui sont déjà en équilibre. Mmh. Ce qui va être vraiment fort sur la plante adaptogène, c'est qu'elle va s'adapter à vous, à votre terrain. Par exemple, si vous avez besoin d'être stimulé, une plante sera stimulante. Par contre, si vous avez besoin d'être un petit peu ralenti, apaisé, eh ben, cette même plante saura le voir et apaisera.
C'est vraiment une plante. En fait, la plante, c'est le modulateur interne un peu de son stress ou de son énergie.
Ouais, totalement. Elles ont ces capacités-là qui sont absolument, absolument fabuleuses.
Et en plus de ça, j'avais vu que c'était, voilà, pas forcément pour le stress ni la fatigue. Tu parlais même de performance, même si leurs effets les plus connus, voilà, c'était le stress, la fatigue. C'est quoi les autres agissements qu'elles peuvent avoir? Donc performance et quoi d'autre?
On parlait aussi tout à l'heure du stress. Alors c'est vrai que si ça va être un petit stress, un petit peu passager, on va peut-être davantage utiliser d'autres plantes, des plantes peut-être plus anxiolytiques, comme la passiflore, la mélisse, la valériane, l'aubépine, ce genre de choses. Par contre, vraiment, l'adaptogène, on va l'utiliser en cas de stress vraiment très intense et qui perdure, parce qu'elle va vraiment venir moduler la réaction au stress et toutes les réactions qui en découlent, notamment la production de cortisol dont on parlait tout à l'heure. Elles vont agir vraiment sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien en étant en lien avec trois autres grandes sphères, donc le système hormonal, on en a parlé tout à l'heure, donc par rapport au cortisol notamment, le système nerveux, donc c'est bien évidemment le premier système qui est affecté quand il y a un stress chronique, et puis le système immunitaire. Donc on sait à quel point le système immunitaire est en lien avec le stress et la fatigue. Quand on est épuisé, on sait bien que le système immunitaire est forcément plus vulnérable et on va facilement attraper le petit rhume saisonnier qui passe par là. Donc en renforçant l'organisme, les plantes adaptogènes vont aussi, je dirais, booster nos cellules immunitaires.
Ok. Bon, bah du coup, j'ai plein de cas en fonction de ce que tu viens de mentionner aussi. Où les plantes adaptogènes pourraient être utiles, et j'aimerais bien bah du coup te faire la liste et que tu me dises oui c'est vrai, tout à fait, ou bien non, là c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas vraiment ça, même si du coup c'est quelque chose que j'ai trouvé sur internet.
D'accord.
Donc le premier, c'est le stress chronique. Je pense qu'on l'a bien répété.
On est bon.
Le second, c'est le burn-out. T'en as aussi mentionné là.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc c'est ok. La fatigue surrénalienne.
Oui,
totalement lié.
La fatigue surrénalienne, on est un petit peu sur un sujet, je dirais, touchy, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance scientifique officielle de ce terme. Mais pour autant, ben, c'est quelque chose, c'est une réalité. On le sait bien. On est finalement dans cette zone grise entre l'état de pleine santé et le burn-out. Cette zone grise, ben, c'est la fatigue surrénalienne.
La suivante, c'est la charge mentale.
Ouais, la charge mentale, le surmenage, on va pouvoir par exemple utiliser des plantes comme la rhodiola. On en parlera peut-être tout à l'heure.
J'ai plein de questions sur la rhodiola. L'autre, c'est l'anxiété. Donc tu disais, il y avait des effets anxiolytiques.
Ouais, tout à fait.
Ensuite, c'est les troubles du sommeil.
Oui, alors pas forcément, je dirais, toutes les plantes, parce que certaines adaptogènes vont être très stimulantes. Donc, okay. On va pas forcément les prendre directement pour le sommeil. Mais, par exemple, on va avoir l'ashwagandha, qui est vraiment très bien pour le sommeil également.
Ensuite, bah là, on en a parler un tout petit peu de l'immunité et la prévention hivernale.
Mmh. Oui.
Prévention hivernale, c'est quand même assez spécifique. Les plantes adaptogènes...
C'est pas forcément ce qui me viendrait en premier lieu, mais ça peut contribuer.
Mmh. Ensuite, c'est la dépression légère.
Mmh. Ouais, c'est ça. Dans les dépressions légères à modérées, on va avoir des plantes telles que la rhodiola, par exemple, pour lesquelles on a des études solides qui montrent effectivement un potentiel antidépresseur.
Ok. On arrive sur la fin. C'est les troubles de la mémoire et de la concentration.
Ouais. Ouais, tout
ça,
fait.
J'étais un peu plus surprise.
Ouais.
Parce que ça veut dire que c'est des choses que moi, j'aurais voulu avoir, du coup, quand j'étais étudiante à la fac et tout.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Effectivement, on a souvent entendu qu'il fallait prendre du ginseng avant et pendant les partiels, justement, pour stimuler les fonctions mentales et notamment la mémoire, la concentration.
J'espère que c'est pas du dopage
non,
dans le futur.
Alors, je sais pas si c'est autorisé dans le cadre des performances sportives. Ça, j'ai pas forcément.
Bah justement, la prochaine, c'est l'endurance chez le sportif.
Ouais, ben très bien aussi. Effectivement, le ginseng, pareil, va pouvoir vraiment avoir des effets très positifs chez les sportifs. Donc, par exemple, avec le ginseng, on va pouvoir observer une baisse de la fréquence cardiaque, une réduction également des lactates par voie sanguine. Voilà, donc c'est vraiment une chouette plante aussi dans ce cadre-là.
Et le dernier, c'est l'équilibre hormonal. Du coup, tu l'as mentionné aussi, mais c'est assez large dans l'équilibre hormonal.
Alors peut-être que ce point-là, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus parce que c'est pas forcément très intuitif. Rappelons tout simplement un constat, c'est que nos hormones, quelles qu'elles soient, elles sont fabriquées, nos hormones stéroïdiennes, à base de cholestérol. Donc, à partir de ce cholestérol, on va fabriquer ce qu'on appelle une hormone mère, qui s'appelle la prégnénolone. Et à partir de cette prégnénolone, on va avoir plusieurs fabrications hormonales. Donc, on va fabriquer des œstrogènes, du cortisol, voilà. Et donc, quand il y a un stress qui va être aigu, prolongé, le corps va donc préférer sécréter du cortisol plutôt que des hormones sexuelles. Voilà, en fait, c'est le corps, il est en mode, bah allez, la survie,
tu feras ça plus tard.
C'est ça, les hormones sexuelles, ça vient un petit peu dans un second temps. Donc forcément, ça va avoir une influence sur la santé hormonale. Donc par exemple, si notre corps fabrique trop de cortisol, eh ben on va manquer d'œstrogène, on va manquer de LH, de FSH, de progestérone, et donc on va observer des troubles, non seulement des troubles du cycle, avec par exemple des cycles beaucoup plus longs, des cycles où il n'y aura pas forcément d'ovulation, et donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de fertilité. Déjà, on observe aussi beaucoup de SPM. Et puis, il y a également une petite mention particulière à porter chez la femme ménopausée, parce que dans la période de ménopause, on va avoir une concentration, une sécrétion de cortisol qui va être un petit peu augmentée. Donc voilà, donc c'est un point de vigilance aussi à avoir durant cette période très spécifique. Et donc cette hausse du cortisol en période de ménopause, elle va aussi aggraver, je dirais, les petits désagréments de la ménopause qu'on peut observer fréquemment, à savoir l'irritabilité, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil aussi.
Bon bah merci pour ce petit aparté. On a parlé des situations où on fait appel aux plantes adaptogènes et en fin de compte, c'est toujours en fait quand notre corps et notre mental est mis à rude épreuve. Et donc ça fait sens de savoir que c'est pas un hasard. Elles-mêmes, elles poussent dans des environnements extrêmes. Ces plantes, parfois hostiles, elles ont dû développer des mécanismes de survie. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on dirait que ces plantes concentrent tous leurs bienfaits dans les extrémités, puisque ce sont les racines, les baies qu'on utilise. Est-ce que tu saurais pourquoi ce sont précisément ces parties de la plante qui concentrent le plus de propriétés?
Oui, alors c'est vrai que ce que tu as souligné, c'est que les adaptogènes sont vraiment des plantes, des grandes survivantes de milieux hostiles. Elles sont habituées à des altitudes très hautes, à des sols vraiment très pauvres. Après, la racine, c'est vraiment l'organe source de la plante. Pour nous, en phytothérapie, la racine, c'est un peu un monde mystérieux. Mmh. Et la racine, en fait, ça va vraiment être l'organe qui va permettre la survie de la plante si jamais il y a un bouleversement. Alors par exemple un stress qui va être hydrique, un stress climatique, une attaque, un champignon, une bactérie, c'est vraiment la racine qui va être mobilisée. Et puis par ailleurs, la racine, elle contient des substances
je dirais, protectrices essentielles, et notamment des métabolites secondaires, des réserves de sucre. Donc voilà, donc ça peut, je pense, s'expliquer comme ça. Et puis, les baies vont vraiment protéger aussi les graines, assurent un grand rôle dans la reproduction. Et c'est vraiment des bombes, je dirais, de composés, de molécules antioxydantes. Donc, je pense que ça peut s'expliquer pour ces raisons-là.
Ok. Elles se protègent, en fait, elles-mêmes. Mmh. Elles se nourrissent elles-mêmes par là où elles stockent le plus de choses. Donc, non, c'est maintenant, j'arrive un peu mieux à visualiser. J'aimerais qu'on passe sur chacune des plantes les plus connues. Alors, c'est là le moment un peu plus compliqué, parce qu'on va vraiment passer du temps pour parler de leurs origines, des effets principaux de la plante, des profils adaptés aussi pour pouvoir consommer cette plante, et aussi quelques précautions d'emploi, parce que, comme tu as dit, il y a certaines choses à faire attention. Est-ce que tu es prête ?
Je suis prête.
On commence avec l'ashwagandha. Elle vient d'où, l'ashwagandha ?
Alors, l'ashwagandha, c'est une plante originaire d'Inde, qui est aujourd'hui cultivée dans le pourtour méditerranéen, et puis un petit peu en Afrique du Sud aussi.
Ouais. Ah oui, je savais pas.
Ouais, en hindi, ça signifie odeur de cheval.
Ah super. Ça veut dire que ça sent pas très bon.
Il n'a aucune odeur quand on prend de l'ashwagandha, mais c'est son nom hindi parce que ça va en fait évoquer donc le cheval, qui est un animal connu pour sa puissance dans cette tradition. Donc l'ashwagandha, c'est vraiment, je dirais, la reine des plantes adaptogènes. Elle a des propriétés bien évidemment toniques, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, elle va pouvoir apaiser si besoin. On va l'utiliser dans les troubles du sommeil.
Ouais. Donc on peut la prendre le soir.
Ouais, c'est ça. L'ashwagandha, on peut la prendre le matin comme le soir. Il y a pas, tout dépend le besoin, je dirais. Et puis c'est une plante qui va être aussi aphrodisiaque, et puis qui va diminuer les concentrations de cortisol dont on parlait tout à l'heure.
Ok.
Donc c'est vraiment une très très belle plante, l'ashwagandha, mais qui a aussi, je dirais, des contre-indications et des interactions assez précises. Donc j'ai peut-être pas parlé aussi de la forme que l'on peut utiliser. L'ashwagandha, moi j'aime bien préconiser des extraits titrés en 8-anolides, donc c'est vraiment les principes actifs qui ont ces propriétés adaptogènes. L'extrait le plus connu, je dirais, et breveté, c'est le KSM-66, voilà, qui est vraiment, vraiment très qualitatif.
On l'a chez Sunday. Du coup, c'est quel type de personne qui peut prendre cette plante-là ? C'est quel profil ?
Alors, je dirais que c'est des personnes qui sont quand même un petit peu sous tension et qui vont vivre des périodes assez transitoires dans leur vie. Donc, un deuil, un déménagement, une reconversion professionnelle. Voilà, ça va être vraiment, je dirais, le profil type. Mais après, voilà, c'est une plante qui va vraiment être bien. Donc, comme on a dit pour le sommeil, il y a aussi des petits effets sur la thyroïde en cas d'hypothyroïdie également. Très belle.
En tout cas, moi, j'ai testé, approuvé. Ça me réussit plutôt bien. Et il y a des fois où aussi c'est noté qu'il faudrait commencer à une dose plus petite que recommandée, puis monter au fur et à mesure. Est-ce que ça vaut le coup de tester comme ça en crescendo?
Alors, ça peut avoir son intérêt pour s'assurer, par exemple, qu'il y ait une bonne tolérance, qu'il n'y a pas d'effet indésirable. Pourquoi pas ? Mais c'est pas forcément systématique. C'est pas obligatoire de procéder comme ça. Après, ce qui peut être bien, c'est de commencer à des doses, je dirais, de 600 mg par jour. Et puis, si éventuellement on voit qu'au bout de 10-15 jours, il n'y a pas énormément d'effets, à ce moment-là, on peut peut-être doubler la posologie. Mais si on a déjà de très bons effets avec la posologie de base de 600 mg, je pense qu'on peut rester aussi à ces dosages-là. Par contre, le point de vigilance avec l'ashwagandha, ça va être donc ces contre-indications. Donc, à chaque fois, les adaptogènes, elles sont contre-indiquées, je leur dirai pas à chaque fois, chez la femme enceinte, la femme allaitante et le jeune enfant. Là, avec l'ashwagandha, on va aussi avoir une contre-indication en cas d'hyperthyroïdie, dans certaines maladies auto-immunes également, et puis dans des maladies aussi du foie. On va avoir des interactions, notamment avec des corticoïdes et, par exemple, les traitements antidiabétiques oraux, entre autres.
Et c'était quoi les effets indésirables qu'on pouvait avoir, ces problèmes digestifs
C'est souvent ça. C'est souvent ça.
À la selle.
Ça peut. C'est vrai que les troubles digestifs, c'est quand même les effets indésirables les plus fréquemment recensés, que ce soit sur les médicaments comme sur les plantes. Mais après, c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre.
Ok. Bah maintenant, on peut passer à la prochaine. C'est la Rhodiola rosea, qui est très appréciée aussi. Et pourquoi elle est autant apprécié, tu penses?
Alors la rhodiola, moi c'est une plante que je trouve absolument merveilleuse. C'est vraiment une plante, je dirais, de la femme du middle age. Quand il y a une charge mentale, quand il y a un surmenage, c'est vraiment une plante phare qui permet de retrouver beaucoup de sérénité. Alors, moi c'est une plante que j'avais pu essayer à l'époque et qui m'avait vraiment vraiment bien réussi. C'est une plante qui va pousser dans un climat vraiment très rude, en Sibérie. À l'origine, dans les régions vraiment septentrionales d'Asie et d'Arctique. Donc ça va être une plante vraiment adaptogène qui va réduire le cortisol, qui va avoir des effets anti-fatigue. Voilà, c'est vraiment moi, une plante que j'aime tout particulièrement.
Il y a certaines maladies où on pourrait l'utiliser?
Alors ça va être une plante qu'on va utiliser dans des cas de fatigue chronique, particulièrement dans la maladie de Lyme notamment. On va aussi pouvoir l'utiliser dans des contextes un petit peu précis, oui, de surmenage, de burn-out, en cas de dépression aussi. J'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que on a des études par rapport à cette plante-là sur la dépression.
Et comment on la prendrait du coup aussi en extrait?
Ouais, alors il y a des formes poudre et il y a des formes extraits. Moi j'ai tendance à privilégier quand même des extraits qui soient standardisés en rosavine et en salidroside, qui sont vraiment les deux principes actifs, je dirais, majeurs. On est sur des posologies à peu près de 100 à 250 mg par jour. Et sur des cours quand même, je dirais, un petit peu discontinus, on va prendre généralement 3 mois de rhodiola, mais en faisant quand même une petite pause de quelques jours à la fin de chaque mois.
Oui. Ah oui, c'est juste quelques jours. Et oui. Après, on peut en reprendre.
C'est ça, exactement. Okay. Exactement.
S'il y a autant d'effets, est-ce qu'il faudrait la prendre plutôt le matin ou plutôt le soir pour apaiser?
Alors la rhodiola, elle va être plutôt stimulante, donc on va la prendre systématiquement le matin ou le midi. On va jamais faire de prise à partir du milieu d'après-midi, parce que sinon on risque de pas forcément très bien dormir le soir.
Ok, noté.
On va aussi avoir des contre-indications un peu strictes, notamment en cas de pathologie maniaco-dépressive, parce qu'on risque d'avoir un accès de manie. Dans les contre-indications, on retrouve aussi une contre-indication qui peut être un petit peu, je dirais, pénible, parce qu'elle interagit avec la pilule contraceptive, avec les œstrogènes. Donc voilà, ça c'est, je dirais, le point le plus embêtant dans ces contre-indications. Après, elle n'est pas forcément très recommandée aussi en cas de traitement antidiabétique, parce qu'elle peut aussi moduler un petit peu la glycémie.
Et les enfants peuvent pas en prendre?
Non. De toute manière, les plantes adaptogènes, on les limite quand même, on les privilégie quand même chez l'adulte.
On espère que les enfants, de toute manière, n'ont pas de surmenage et de stress pour pouvoir prendre ce genre de choses.
On a d'autres solutions pour les enfants.
Okay. Et bah, on peut continuer maintenant avec le fameux ginseng. La question la plus difficile, c'est quel ginseng, parce qu'il y en a plusieurs types. En tout cas, chez Sunday, sur notre boutique, on en a plein. On a le ginseng Panax CA meilleur, rouge, mais aussi le blanc. Il y a aussi le Panax quinquefolius, soit le ginseng américain. On a aussi le ginseng sibérien, l'hétéro Coccus santicoccus, je le dis très mal. C'est quoi la différence principale en fait entre tous ces ginseng? C'est leur origine ou c'est différents principes?
Eh ben, un petit peu les deux finalement. Ce qu'on pourra dire déjà, tu l'as très bien mentionné, c'est qu'il y a plusieurs ginseng. Le plus prisé, c'est celui qui vient de Corée. Ensuite, on va aussi avoir des ginseng du Japon, du Vietnam, comme tu dis, le ginseng américain, qui vient à l'origine du Québec, d'ailleurs, qui serait plutôt un ginseng canadien, mais qui, du coup, est en voie de disparition aussi, le ginseng américain. Donc, on a aussi des différences après au niveau, par exemple, tu parlais du ginseng rouge et du ginseng blanc. La différence, ça va être sur l'âge des racines et sur, je dirais, le mode d'extraction. Donc, le ginseng rouge, on va être sur des racines qui vont être plus âgées, qui auront au moins 6 ans. Donc voilà, donc il faut attendre avant de les récolter. Le ginseng, c'est vraiment une plante qui a un usage ancestral. On retrouve sa trace dans des écrits qui sont vraiment très anciens en Chine, je crois 2500, voire même 3000 avant Jésus-Christ. Donc c'est un usage qui date. Et c'est une plante absolument magnifique. Pour te dire, Panax, ça a donné ensuite le terme panacée.
Donc le ginseng, on va l'utiliser dans diverses situations, notamment pour abaisser le niveau de cortisol, dans les cas de stress, de fatigue aussi, et ça va être un excellent tonique qui va permettre d'améliorer les performances physiques mais aussi les performances mentales.
On en a en extrait en pâte fermenté ou en extrait voilà simple. Comment on choisit aussi ces formes-là ?
Alors je dirais que on va quand même privilégier des extraits et vérifier le titrage en ginséroside. Moi j'aime bien quand même qu'il y ait au moins 7% de ginséroside. Après ça dépend vraiment aussi le besoin, qu'est-ce qu'on souhaite cibler, quelle est la forme galénique qu'on préfère prendre aussi.
C'était pas aussi un aphrodisiaque, je viens de penser là.
Ouais, si, c'était utilisé à l'époque chez les empereurs pour soutenir la libido et le désir sexuel, tout à fait.
Donc il y avait un petit marché noir de ginseng.
Totalement. Mais c'est pas forcément la plus pertinente pour ces sujets-là.
OK. Et on le prend quand du coup le ginseng ? Avant, justement, tu disais performance mentale, là, les partiels, etc.
Ouais.
Mais si on peut le prendre dans la journée ou...
Alors moi, je dirais déjà, avant une période d'examen, ça peut être tout à fait pertinent, avant et pendant les examens, des périodes où on va avoir vraiment besoin de se concentrer. On peut aussi en prendre au moment de l'hiver, pour stimuler les défenses immunitaires. Après, ce qui va être important, le ginseng, vu qu'elle est extrêmement tonifiante, ça va être aussi de la prendre plutôt en début de journée pour pouvoir dormir la nuit.
C'est bien de savoir. Et du coup, comme c'est une plante, la plante a forcément des contre-indications. C'est quoi les contre-indications du ginseng dans ce cas-là ?
Alors, il va y en avoir plusieurs, mais je dirais les principales, ça va être l'hypertension artérielle et aussi un grand point de vigilance avec l'enfant non pubère parce qu'on a observé des cas de gynécomastie chez l'homme. Donc, on va avoir ce point de vigilance-là. On va aussi surveiller la glycémie parce que c'est une plante qui est un petit peu hypoglycémiante.
Ça revient beaucoup, du coup, la glycémie avec les médicaments oraux pour le diabète.
Oui, beaucoup d'adaptogènes, effectivement, ont un effet quand même hypoglycémiant. Et l'autre point important, c'est une contre-indication stricte en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant.
OK. Ensuite, on passe à la Schisandra chinensis. C'est quoi ? C'est un peu bizarre à dire. Et ça vient d'où ?
Alors, c'est une plante qui va être originaire du nord-est de la Chine et qui était utilisée traditionnellement pour préserver la jeunesse. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits les plus anciens. Après, c'est une plante, je dirais, qui va être quand même assez similaire au ginseng. Elle a un mode d'action assez, assez identique.
Mais du coup, elle est un peu moins chère, j'imagine.
Ouais, j'en ai aucune idée. Je sais pas.
C'est pas grave. C'est pas grave. On peut aussi, tu vois, je me pose des questions aussi, mais c'est juste, c'est vrai que pour les gens qui essayent de savoir laquelle est la mieux parmi tout ce qu'on est en train de citer, je me demandais. Mais du coup, qui est-ce qu'on aurait besoin de la Schisandra par rapport au ginseng, par exemple?
Je dirais que c'est des profils assez similaires. Pas forcément, je dirais, de préférence sur l'une ou sur l'autre. Par contre, le Schisandra va aussi avoir une propriété au niveau du foie, des propriétés hépatoprotectrices, donc on pourrait utiliser en cas d'hépatite, par exemple, même si ce sera pas forcément la première plante qui nous viendra en tête dans ces contextes-là. Mais pourquoi pas l'ajouter en supplément.
Est-ce qu'elle a moins de contre-indications que le ginseng ?
Oui, un petit peu moins. Mais quand même quelques-unes.
On peut se renseigner un peu plus sur la différence entre le ginseng et le schisandra et voir ce qui nous plaît le plus. On passe à une autre qui est très connue, c'est la maca. C'est une racine, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est ça exactement, qui nous vient du Pérou. Donc c'est une plante qui va pousser à une altitude très élevée, environ 4500 à 5000 mètres, dans la cordillère des Andes. Donc c'est une plante vraiment, je dirais, d'altitude extrême, qui est très 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 connue pour ses propriétés, bien évidemment, aphrodisiaques. Parce que c'est comme ça qu'on la connaît le plus. Donc en plus de ses propriétés aphrodisiaques, elle va aussi avoir une efficacité hormonale, mais pour l'instant qui est validée uniquement sur les études. Dans les études, je dirais, animales. On va aussi pouvoir l'utiliser dans un climat de ménopause, notamment pour lutter contre les bouffées de chaleur, l'irritabilité. Voilà. Et puis, elle va aussi améliorer les performances physiques et mentales.
Chez Sunday, c'est encore super dur de choisir parce qu'on en a plein de sortes. Noir, rouge, jaune, tout ça, mais gélatinisé. Du coup, c'est dur de choisir encore une fois. C'est quoi la différence entre toutes ces sortes de maca ?
Alors, moi, j'ai tendance plutôt à privilégier la maca jaune parce que c'est quand même la maca qui est la plus étudiée, déjà, pour laquelle on a le plus d'études cliniques, et puis c'est celle qui représente aussi, je dirais, le plus grand marché. Après, il existe effectivement la maca rouge, la maca noire, mais voilà, on a quand même moins de preuves. Ouais.
Ok, je finis avec une dernière. C'en est une que j'ai découverte chez Sunday, c'est le jiagulan. On l'a en extrait, on l'a en herbe. Il fait quoi, le jiagulan ?
Alors, j'avoue que c'est une plante que je ne connais absolument pas, enfin dont j'ai déjà entendu parler une ou deux fois. J'avais vu que c'était une adaptogène qui a aussi un effet sur la résistance à l'insuline, si je ne me trompe pas, avec des propriétés cardiovasculaires. Mais c'est plutôt une plante quand même de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, quoi. Moi, personnellement, j'utilise très peu.
Okay. Ok, donc c'est vraiment une découverte.
Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres plantes qui ont des effets similaires aux plantes adaptogènes, mais qui ne sont pas des adaptogènes au sens strict du terme, mais que toi, tu aimes bien quand même utiliser? On parlait tout à l'heure des plantes que tu pouvais utiliser chez la femme. Mmh. Ça te fait penser aussi à d'autres choses?
Alors, une plante qui n'est pas forcément considérée dans les adaptogènes, mais qui a quand même un potentiel justement dans la régulation du cortisol, ça va être la gémothérapie de cassis. Donc, la gémothérapie, c'est vraiment une branche de la phytothérapie dans laquelle on va utiliser la partie embryonnaire, en fait, le bourgeon de la plante, que l'on va mettre donc à macérer traditionnellement pendant une vingtaine de jours. Ce qui va être vraiment génial dans la gémothérapie, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins d'interactions et de contre-indications. Donc, on va par exemple pouvoir l'utiliser chez l'enfant. La gémothérapie, donc, ça va être une posologie un petit peu particulière. C'est une goutte par année d'âge par jour. Donc, si l'enfant a 2 ans, ça va être 2 gouttes par jour. S'il a 6 ans, ça va être 6 gouttes par jour. Voilà. Après, chez l'adulte, on est sur une posologie moyenne d'environ 15 gouttes par jour réparties en 2-3 prises. C'est vraiment... Vraiment, je dirais une science à part, la gémothérapie. Et donc, les bourgeons de cassis, ils vont avoir cette action sur le cortisol. Donc, on va vraiment les utiliser dans des cas de fatigue. Et ça va être assez bluffant. Donc, toujours dans des cures discontinues. Généralement, 1 mois de prise, une petite semaine de pause, puis encore 1 mois de prise, etc. Voilà, avec... Après, même si on la prend de manière discontinue, on peut quand même l'utiliser sur des périodes assez longues, le bourgeon de cassis. Et puis, il y a très peu de contre-indications. C'est un bourgeon qui est un peu cortisone-like, donc on fera attention. Il y a une contre-indication dans l'hypertension artérielle. Et par contre, on veillera vraiment à ne pas le prendre le soir, parce que pareil, ça peut avoir un côté un petit peu excitant et donc perturber aussi le sommeil.
Ça se prend comment, du coup? On met les gouttes dans l'eau et on boit comme ça?
C'est ça, dans un fond d'eau. Il n'y a pas forcément besoin de prendre un verre entier. Donc, on met les petites gouttes et on prend. Généralement, on les prend quand même avant le repas.
Ok, bah c'était intéressant parce que je ne connaissais pas du tout. Maintenant qu'on a cité pas mal de plantes et qu'on est peut-être intéressé par plusieurs à la fois, est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on combine les plantes entre elles? C'est possible?
Tout à fait. L'association que j'aime bien, ça va être, donc à condition bien évidemment qu'il n'y ait pas de contre-indication, ça va être rhodiola et ashwagandha prises ensemble. Donc la rhodiola, on la prendra le matin avec de la vitamine C, par exemple, pour un effet un petit peu antifatigue, tonifiant, d'autant plus que la vitamine C a également un effet sur la régulation du cortisol. Et le soir, on prendra plutôt de l'ashwagandha, par exemple avec du magnésium. En parallèle, bien évidemment, on veillera toujours, je dirais, aux incontournables, la vitamine D, peut-être un multivitamine si besoin aussi.
Donc, faut quand même avoir sa base, et ça, c'est ce qu'on vient rajouter à sa base de micronutriments qu'on devrait avoir chacun.
C'est ça. Je pense que déjà, la première chose à faire, ça va être effectivement vitamine D, multivitamine du groupe B, oméga 3, et puis ensuite, on peut ajouter ces fabuleuses adaptogènes. Le magnésium aussi, je ne l'ai pas dit dans les incontournables, mais quand
tu l'as dit là pour le soir au moins. Est-ce que la rhodiola, on peut la mettre aussi avec d'autres choses? Là, tu disais juste ashwagandha. Il y en a d'autres plantes qu'on peut mettre ensemble?
Par exemple, la rhodiola, on va pouvoir la mettre avec le ginkgo biloba quand on a des problèmes un petit peu, je dirais, de fonction... Enfin, quand on souhaite équilibrer les fonctions cognitives ou travailler un petit peu sur la mémoire. Le ginkgo va aussi très bien aller avec le ginseng. Enfin, voilà, on peut faire des petites associations comme ça.
Le ginkgo, c'est pas adaptogène?
Non, non, non. Ça a de très nombreuses propriétés, de très nombreuses interactions médicamenteuses aussi. C'est une plante qui est absolument magnifique.
Ok. Et du coup, C'est vrai que on l'a dit à certains moments là que la rhodiola, par exemple, on pouvait la prendre pendant 3 mois, faire une pause de quelques jours, et puis la reprendre. C'est pareil pour les autres, parce que par exemple, moi, je vais finir ma boîte d'ashwagandha. Est-ce que je dois faire une pause longue ou courte?
Alors, il y a deux écoles quand on parle de ça. Il y a les personnes qui sont adeptes des cures en continu, et d'autres qui préfèrent quand même faire des petites semaines de pause régulièrement. Moi, j'aurais tendance à être plutôt de cette école-là, à faire...
Du coup, toi, t'es plutôt de l'école de pause ?
Ouais, moi, je suis plutôt de l'école de pause. J'aime bien quand même, à la fin de chaque cycle mensuel, faire quelques jours d'arrêt. Après, ce qui peut être intéressant, dans ton cas, pour l'ashwagandha, ça va être donc de faire une petite pause et ensuite de renouveler. L'ashwagandha, elle peut être prise quand même pendant 6 mois, à condition de faire des pauses régulières. Après, ce qui va être assez incroyable avec les adaptogènes, c'est que quand ce sera le temps de faire une pause, le corps va le faire sentir. C'est-à-dire que si vous prenez une adaptogène, si tu prends une adaptogène pour apaiser, eh ben, si ça fait trop longtemps que t'en prends, au contraire, elle va avoir un potentiel plutôt énervant, excitant. Et si tu prends une adaptogène justement pour te tonifier, eh ben, au contraire, tu vas te sentir très fatigué. Donc là, ce sera le signal que c'est le moment d'arrêter.
Ok. Donc c'est bien, elle nous dit exactement quand c'est le moment. Donc je ferai attention pour la prochaine fois. Donc on disait qu'il y avait des formes qui étaient un peu moins dosées. Donc les formes pour toi, tu recommandais par exemple pour la ashwagandha, pour la rhodiola, c'était des extraits standardisés. Est-ce qu'on peut par exemple commencer par d'autres formes, comme chez nous on a des gummies d'ashwagandha ou de l'ashwagandha latte qui sont un peu moins dosées, pour voir si ça fait un effet, puis ensuite passer à l'extrait, ou vaut mieux passer à l'extrait directement, et le reste, c'est juste des petits plus, des petits bonus.
Je dirais que c'est à l'appréciation de chacun. Il y a des sensibilités aussi très individuelles. Des personnes qui, avec des gummies, par exemple, vont déjà ressentir un très fort effet, et puis pour d'autres, il faudra vraiment des extraits très concentrés. Donc ça, après, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Voilà.
Ok, bon, au moins c'est clair. Comme il y a plein de contre-indications et peut-être d'interactions, aussi plein de formes là qu'on a mentionnées, toi tu recommandes juste de les intégrer dans une démarche de santé globale. On peut soi-même tester ou on doit quand même en parler avec un professionnel avant?
Alors, ce que tu soulignes, c'est vraiment intéressant, c'est que aujourd'hui, on peut pas tout attendre seulement d'une molécule, d'une plante. Le professionnel de santé qui va vous dire, ben prenez cette gélule de plante et puis tous vos soucis seront réglés, vous serez guéri. Un conseil, fuyez. Pour moi, la phytothérapie, elle doit vraiment s'inscrire dans une démarche de soins globale. Mais quand je dis soins, c'est aussi prendre soin de soi. Par exemple, en veillant à son alimentation, à une pratique sportive régulière, à sa gestion du stress. Je vais te donner un exemple assez marquant pour moi. Il y a quelques années, j'avais reçu en rendez-vous une dame qui venait pour des douleurs articulaires inflammatoires. Donc voilà, on a fait un protocole de complémentation ensemble, mais aussi des consignes, un petit peu des conseils nutritionnels. Et puis elle est revenue me voir 3 mois plus tard en me disant que ce que je lui avais donné, ça marchait pas du tout, qu'il y avait aucune efficacité. Donc ça m'a un petit peu surpris, et puis finalement, en lui posant des questions, elle m'a avoué que les compléments, déjà, elle les avait très peu pris, qu'il y avait eu énormément d'oubli quasiment quotidiennement, et puis qu'au niveau de l'alimentation, elle avait rien réussi à mettre en place, même des toutes petites choses très insignifiantes, qui peuvent sembler du moins insignifiantes, mais qui ont leur importance, parce que son mari était pas partant, et puis ensuite elle m'a dit qu'elle était aussi beaucoup allée au fast-food. Donc voilà, donc pour moi, c'est un petit peu un non-sens de tout attendre d'un protocole de complémentation. Le premier changement, il doit venir aussi de soi. Il faut être moteur aussi dans cette démarche-là. Donc, par exemple, dans le cas du stress, avant toute complémentation, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On va, par exemple, essayer de se coucher à des heures régulières. On va aussi essayer de manger à des heures régulières. Ça a son importance pour notamment éviter les variations glycémiques.
Souffler, s'autoriser à souffler aussi, parce que je pense que des fois, on est en hyperactivité et le week-end, on a envie de faire plein de choses parce qu'on a travaillé la semaine.
C'est
ça. Donc, il faut aussi s'autoriser du repos.
Ouais, vraiment, vraiment.
et puis peut-être aussi inclure la cohérence cardiaque, qui est un outil absolument fabuleux, qui va permettre de réguler le stress. Enfin bref, voilà, essayer de s'exposer aussi à la lumière naturelle de bon matin, prendre l'air, avoir un contact avec la nature. Tout ça, vraiment, je dirais, c'est les premiers piliers à mettre en place. Et puis, si c'est pas suffisant, et ben à ce moment-là, peut-être qu'on pourra mettre des complémentations, de la phytothérapie en place. Après, pour répondre à la seconde partie de ta question, quelqu'un qui va être vraiment en excellente santé, qui ne prendra aucun médicament et qui n'aura aucun antécédent personnel spécifique ni familial spécifique, à ce moment-là, s'il veut tester une plante adaptogène, pourquoi pas ? Mais en étant quand même vigilant. Après, pour moi, d'après mon expérience, rien ne vaut aussi le conseil de quelqu'un de formé qui saura... savoir déterminer la plante qu'il vous faut, qui saura aussi peut-être vous orienter vers des analyses fonctionnelles, vers voilà une mise en lumière en fait de la plante qu'il faut.
Par exemple, d'autres choses aussi, parce que des fois c'est bien d'avoir la plante là pendant un certain moment, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faut aller chercher plus loin, aller chercher la cause.
Et oui, totalement, parce que si demain tu viens en me disant que tu as par exemple une fatigue chronique et que ta voisine vient en disant qu'elle a une fatigue chronique, il est vraiment probable que vous ayez pas le même protocole, au final la même supplémentation, peut-être parce que toi ta fatigue sera d'origine on va dire surrénalienne, alors que ta voisine ce sera un problème plutôt de résistance à l'insuline, d'inflammation, de déséquilibre hormonal. Donc on va vraiment essayer en tant que professionnel d'aller chercher aussi la cause de cette fatigue, et ça ça va aussi ensuite nous aiguiller sur le sur les choses qu'on va pouvoir mettre en place.
Tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, je pense que c'est important que le patient redevienne aussi acteur de sa santé en tant que professionnel. J'estime que c'est vraiment notre rôle de pouvoir apporter des éléments de compréhension, de pouvoir aussi guider le patient et lui permettre de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et puis ensuite d'identifier des plantes, je dirais des plantes un peu ressources qui conviennent bien. J'ai l'exemple d'une patiente donc qui avait fait une cure de rhodiola qui lui avait vraiment été très 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 bénéfique dans une période de surmenage, de surcharge, et elle sait maintenant que quand elle a justement une période un peu plus dense, ça va être une plante ressource qu'elle va pouvoir employer. Donc, je pense, même si le conseil professionnel est très important, que c'est aussi primordial que chacun soit acteur de sa santé.
En tout cas, c'est ce qu'on répète souvent ici dans ce podcast, de se responsabiliser aussi, de s'écouter et aussi comprendre ses fragilités. En parlant de fragilité, transition incroyable, on va parler des fragilités des plantes. Il y a certaines espèces qui sont déjà menacées parce qu'elles poussent justement en altitude, parce qu'elles doivent monter de plus en plus haut à cause du réchauffement climatique. À cela s'ajoute la cueillette intensive qui est liée aux tendances, à l'explosion de la demande. Est-ce que tu as une recommandation pour pouvoir en consommer de manière responsable et durable ?
Alors c'est un constat qui est effectivement assez amer à poser. On observe pour certaines plantes une raréfaction des espèces. C'est le cas par exemple de la rhodiola, qui a été classée en 2023 comme espèce sauvage menacée d'extinction. Donc pour ces plantes-là, on va devoir aller de plus en plus vers des formes un petit peu plus cultivées. Mais effectivement, certaines ressources naturelles se raréfient. Et au-delà du côté disparition des écosystèmes, du côté réchauffement climatique, on va aussi avoir un drame humain qui se joue. Parce que de nombreuses familles dépendent de cette cueillette sauvage. C'est la principale source de revenus. Et donc, si on a une disparition de ces plantes-là, il va aussi y avoir une précarisation, je dirais, de ces familles-là. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à recommander, mais je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est de privilégier des plantes locales, de substituer par des plantes qui ont des effets assez similaires et qui poussent localement, ou alors qui sont cultivables. On va pouvoir aussi utiliser, privilégier certains labels, le Fair for Life par exemple, ou le Forest Garden Product. Le label bio aussi éventuellement, mais disons que le label bio garantit pas forcément après une juste rémunération aussi des cueilleurs à l'origine. Si ce sujet d'ailleurs est particulièrement intéressant, je renvoie à l'ouvrage du docteur Aline Mercant. Donc ça doit être le manuel de phytothérapie éco-responsable, se soigner sans piller la planète. C'est un ouvrage vraiment qui est très accessible, qui est à la fois adapté aux professionnels mais aussi au grand public, qui est une mine d'or. Elle parle aussi notamment des huiles essentielles, parce que c'est vrai que les huiles essentielles sont des produits absolument merveilleux quand on les utilise de manière ponctuelle, mais c'est aussi des produits qui vont être très coûteux en termes de ressources. Pour donner un exemple, vous l'avez peut-être, tu l'as peut-être déjà entendu, c'est l'exemple de la rose de Damas, l'huile essentielle de rose de Damas. Pour obtenir 1 kg d'huile essentielle de rose de Damas, on va devoir utiliser 3 tonnes de pétales, ce qui est vraiment énorme. Et puis, au-delà de la ressource naturelle, on va aussi avoir un coût en termes de bois, d'eau, etc. Donc, c'est pas forcément des produits très, très écolo, on va dire. Donc, à réserver vraiment un usage très ponctuel.
En tout cas, merci d'avoir un peu mis de la lumière sur ce sujet. J'ai envie qu'on finisse en beauté et sur une note un peu plus positive, peut-être. J'ai un petit jeu pour toi. Je vais te donner les noms vernaculaires français ou bien les surnoms des plantes adaptogènes. Et tu dois me retrouver à quelle plante ça correspond.
D'accord.
Alors, t'es prête?
Oui.
Le premier, c'est racine d'or.
C'est la rhodiola.
Oui, c'est ça. ensuite, c'est la baie aux cinq saveurs.
Ah, le schizandra.
Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai l'orpin rose.
Ah, la rhodiola.
Oui, c'est comme ça qu'on l'écrit aussi sur notre boutique. Une autre, ça s'appelle la baie du sommeil.
La schwaganda?
Oui, c'est la schwaganda. Et je pense que ça vient du nom latin. Ensuite, c'est la reine de l'Ayurveda.
Ah, peut-être encore la schwaganda?
Oui, c'est ça, c'était la question piège.
Plante ayurvédique majeure.
Ouais. Tu l'avais aussi nommé comme ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai le ginseng péruvien.
La maca?
Ouais.
Bah oui, parce ça, c'était que ça facile.
Voilà. l'herbe de l'immortalité.
Ah, celle-là, j'ai pas.
Eh ben, c'est celle que tu connais le moins.
Ah, c'est pour ça. Celle issue de la pharmacopée chinoise.
Ouais, c'est le jiaogulan.
C'est ça.
C'est son surnom, du coup. Ah. Et la dernière, c'est racine de taïga.
L'éleutérocoque, j'imagine, par rapport à son lieu d'origine aussi.
C'est ça.
Ah oui.
Non, bah, t'as eu tout bon. Juste le jiaogulan, mais tu me l'avais déjà dit à l'avance que tu connaissais pas bien. Du coup, si on a envie de se plonger un peu plus sur le sujet, est-ce que t'as d'autres livres que celui que t'as déjà mentionné, des vidéos, des choses que t'as envie de partager aux gens?
Alors, peut-être pas forcément que sur les adaptogènes, mais il y a certains ouvrages, en tout cas, que j'aime beaucoup. Le livre d'Aline Mercant, bien évidemment. Il y a aussi le guide de phytothérapie du docteur Jean-Michel Morel, alors qui est clairement à destination des professionnels de santé. C'est un médecin phytothérapeute et cet ouvrage est vraiment très, très complet. J'aime bien aussi Maîtriser votre protocole santé de Bruno Meret, que je trouve très chouette et très accessible également. En termes de site web, il y a un site qui regroupe vraiment beaucoup d'informations primordiales en phytothérapie, les études cliniques, ce genre de choses. Ça va être Wikiphyto, qui est également créé par le docteur Jean-Michel Morel et alimenté par ses soins et par ceux d'Aline Mercant. Voilà, donc on peut vraiment voir les effets de chaque plante et puis suivre donc les études clinique. Et puis enfin, un livre assez grand public que j'aime beaucoup, c'est le livre sur les compléments alimentaires de Mathieu Nutrastream.
Ah oui.
Voilà, on ne le présente plus.
Tout le monde l'a, au final, dans sa bibliothèque,
c'est vrai.
Je pense. Merci beaucoup pour cette masterclass. Je vais continuer à tester des plantes. Du coup, je vais peut-être me prendre la rhodiola la prochaine fois.
Et ben pourquoi pas.
On peut retrouver des informations sur toi, sur ton site qui s'appelle aurore-oudard.fr. On le mettra en description de toute manière. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre. Dans tous les cas, on apprécie l'engagement, les likes, les reviews du podcast. En tout cas, moi, ça me donne de la force pour continuer et aussi pour vous proposer des sujets qui vous intéressent. Merci encore d'être passé dans cet épisode de Healthwise et on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous avec Sono Natural. Une petite question avant que tu partes, c'est celle que je pose à chaque fois. c'est qu'est-ce que toi tu prends comme complément alimentaire?
Et ben en ce moment ça va être assez réduit pour moi et particulièrement axé autour du postpartum parce que je suis maman depuis peu.
Ah.
Donc ça va être vitamine D, particulièrement là avec l'arrivée aussi des mauvais jours, on va dire, de la saison un peu plus hivernale. Je prends aussi du magnésium et puis un petit peu de fer aussi, du fer bisglycinate.
Ok, bah c'est le trio gagnant alors.
Je crois, ça me va bien pour l'instant.
Merci beaucoup.
Merci.